Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, accuse le Rwanda de poursuivre des attaques militaires contre plusieurs localités congolaises au lendemain de la signature de l'accord de paix à Washington sous les auspices du président américain Donald Trump. Dans son discours sur l'état de la nation, ce lundi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, Félix Tshisekedi affirme que des unités des forces de défense du Rwanda ont lancé depuis la ville de Bugarama des bombardements sur certaines localités du sud Kivu, notamment Kaziba et Katogota, causant des pertes humaines et des dégâts matériels significatifs en violation des engagements pris. En dépit de ces attaques, Félix Tshisekedi dit privilégier la voie diplomatique sans renoncer à la souveraineté et à la sécurité du peuple congolais. Quelle lecture faire du discours de Félix Tshisekedi? Nous en parlons avec Yannick Mambou. Il est député national élu de Kenge Territoire dans la province du Kwango. Il est cadre de l'Union sacrée de la nation. Yannick Mambou, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Achille Kapanga, avocat et analyste indépendant, expert dans les domaines de la sécurité. Achille Kapanga, bonsoir.
Merci beaucoup, madame. Je vous salue. Je salue le co-débatteur, tout le monde qui nous suit à l'instant.
Et Nathanael Onokomba, qui est leader de la jeunesse extra-système, il va nous rejoindre dans un tout petit moment à Kinshasa. Vous nous suivez sous la 103.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiotapi.net. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission live sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Embouteillage monstre, obstruction des caniveaux, mauvaise gestion des déchets, pression démographique dans les quartiers populaires. Voilà autant de facteurs qui exposent la population de Kinshasa au risque sanitaire majeur. Déclaration de Félix Tshisekedi, président de la République, dans son discours sur l'état de la nation ce lundi à Kinshasa. Il appelle à des engagements fermes pour résoudre ces problèmes, y compris la criminalité urbaine marquée par les phénomènes Kuluna, afin de redorer l'image de la capitale congolaise. En outre, le chef de l'État cite des avancées significatives dans plusieurs secteurs, notamment sur le plan diplomatique, économique, éducationnel et infrastructurel. Le président de la République dit travailler davantage pour améliorer le social des Congolais. Il est revenu aussi sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Grâce à Mzati nous donne les grandes lignes de ce discours.
Après avoir passé en revue les démarches diplomatiques visant la restauration de la paix dans l'Est de la RDC, le président de la République s'est dit préoccupé par la montée du banditisme à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, en réitérant l'engagement du gouvernement à y mettre fin, notamment par le renforcement et les réformes de la police. Dans la foulée, Félix Tshisekedi dresse un tableau sombre de la situation dans la ville de Kinshasa, caractérisée par l'insalubrité et les embouteillages qui détériorent la vie des Kinois et affectent l'image même de la capitale. Pour Félix Tshisekedi, la crise des mobilités n'est plus un simple désagrément urbain, mais bien un défi national de gouvernance nécessitant des décisions urgentes, coordonnées et courageuses. Sur le plan économique, le président de la République affirme que le pays progresse en dépit de la guerre, citant l'appréciation du franc congolais. Sur le plan éducationnel, Félix Tshisekedi parle d'un supplément de 100 000 francs congolais accordé à chaque enseignant et de 1384 nouvelles écoles construites à travers le pays, dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire. Il évoque des progrès dans d'autres domaines, notamment la santé, l'agriculture, l'accès à l'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Tout en restant optimiste quant à l'avenir du pays, le chef de l'État conclut son discours en disant, je le cite, « Les ténèbres ne régneront pas toujours. RDC, lève-toi, sois éclairé car la lumière arrive. » Fin de citation.
Merci, grâce à Mzati, pour ce reportage. Yannick Mambou, vous êtes député national élu des Kenge Territoire dans la province du Kwango. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation. Le président de la République a dressé un bilan de l'année 2025 sur le plan sécuritaire, économique et social devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Globalement, d'abord, comment vous avez trouvé le discours du président de la République? Discours qui a duré à peu près 2h20.
Oui, madame, c'était un moment de vérité, de clarté, de fermeté, de lucidité, surtout en ce qui concerne les derniers développements liés à l'accord de Washington, signé les quatre derniers. Nous avons en tout cas savouré un très bon moment, que le président était au rendez-vous de son message. Ça nous a vraiment étiqués, nous étions vraiment édifiés par rapport à la situation panoramique qui venait de parcourir sur tous les secteurs de la vie nationale.
Alors parlons de la sécurité du pays, de la situation sécuritaire. Déjà de façon générale, le président estime que le pays progresse malgré la guerre dans la partie est du pays. Il a quand même accusé le Rwanda de poursuivre des attaques militaires contre la population congolaise au lendemain de la signature de l'accord de paix de Washington.
Madame, en revenant sur les accusations de violation de l'accord par le Rwanda, le chef de l'État a rappelé que la RDC reste engagée pour la paix d'abord, mais jamais au prix de sa souveraineté ou bien de la sécurité de ses populations. Ça, c'est très fort.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire clairement qu'il n'y a pas de sincérité de la part du Rwanda à ce qui concerne les engagements pris. Cela a été démontré le jour même de l'accord, où on a signalé des attaques massives venant du Rwanda. Et cela nous interpelle tous en ce qui concerne notre façon de voir les choses. Nous allons nous mobiliser. C'est l'appel même que le chef de l'État vient de renouveler aujourd'hui. C'est l'appel à l'unité nationale de prendre à bras les corps ce qui nous concerne en termes sécuritaires. C'est d'abord nous-mêmes d'être attentifs, d'être vigilants à ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes agressés parce que cette guerre n'est pas une simple guerre des communautés ou des affrontements des enfants du pays, mais c'est une guerre extérieure, une guerre d'agression, et cela a été bien souligné par le chef de l'État, et nous en sommes très très contents de souligner cela de la manière.
Mais comment les Congolais vont-ils se mobiliser pour faire face à l'agression du Rwanda? Est-ce que ça ne rejoint pas un peu ceux qui appellent au dialogue inclusif?
Madame, le dialogue au Congo est permanent. Cela est bien envisagé partout. Nous sommes partis de pourparler de l'Angola, Doha, processus de Washington. Tout ça sont des dialogues. Les dialogues, le président de la République l'a dit, que le dialogue va continuer. Et nous allons aussi continuer même après l'entérinement de cet accord entre les deux États à Washington. Nous allons toujours continuer dans cet élan. Et le président de la République aujourd'hui venait encore de le souligner une fois de plus, que nous allons toujours continuer dans l'engagement de la diplomatie ajustante, enfin toujours de pérenniser les avancées acquises, et puis voir comment nous allons toujours continuer dans cet élan de la paix que nous voulons tous.
Engagement, diplomatie ajustante, mais sur le terrain, c'est un autre constat amer que lui-même a fait, le président de la République.
Les constats, bien entendu, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et cela nous interpelle tous. Il a parlé aussi du renforcement des FARDC, des poursuites diplomatiques à l'extérieur du pays. C'est là aussi dans la droite ligne de chercher comment nous allons nous-mêmes, Congolais, à notre niveau, au niveau de l'interne, faire de notre pays un pays puissant, se doter d'une armée dissuasive, capable de contenir le 2 345 410 km².
Ce n'est pas encore le cas, on n'a pas encore une armée dissuasive.
Le président de la République a reconnu, à juste titre, la bravoure de nos forces armées, de la police nationale et de nos voyants combattants Wazalendo dans la défense de la patrie, de ce qui se fait sur le terrain, sans toutefois ignorer qu'il y a aussi des faiblesses par rapport à certains ajustements de nos militaires sur le terrain, leur comportement et ainsi de suite. Mais cela ne nous laisse pas toujours en berne de voir, de constater cela. Nous sommes en train de chercher ici comment nous, Congolais, nous allons nous doter d'une armée. Il a parlé de cela, le renforcement d'équipements, des formations, et de la mobilisation générale dans l'armée pour la défense de la patrie. Ça, c'est essentiel. C'est ce que moi, je puis retenir.
Nathanaël Onokomba, vous êtes leader de la jeunesse extra-système. J'imagine que vous avez suivi, comme tout le monde, le discours de Félix Tshisekedi, président de la République, parce que c'était ça, l'actualité, la grosse actu, la grande actualité du jour. Globalement, qu'est-ce que vous avez retenu, comment vous avez trouvé ce discours du chef de l'État?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Je profite de l'occasion pour vous saluer et saluer mes co-débatteurs. Avant de répondre rapidement à votre question, je m'adresse à toute la population, surtout à la jeunesse extra-système de Kolwezi, que je me retrouverai là-bas les 18 et les 19 pour une grande conférence dénommée...
Alors, il ne faut pas profiter du micro.
Je profite de votre micro.
Je
profite de votre micro parce que...
Non,
je profite.
Vous pouvez répondre directement.
Oui, je réponds directement pour dire simplement que je serai à Kolwezi les 18 et les 19 pour le symposium de la jeunesse. Je profite de votre micro parce que c'est l'unique radio qui peut être attendue dans toute l'étendue de la République, Madame Kelly. Ne me traitez pas, ne me tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Alors, par rapport à la question posée, écoutez, le président de la République est un exercice constitutionnel. Il ne le fait pas parce qu'il l'a voulu, mais c'est une obligation constitutionnelle. Alors, moi ici, je pense que le président n'a rien dit de nouveau, mais je suis complètement écœuré ici de suivre que le président pense que nous sommes des petits-enfants. Il pense que le pays lui appartient. Ce pays ne lui appartient pas, il est simplement un garant qui les gère parce qu'on l'a conféré le pouvoir sur pied de l'article 5 de la Constitution manifesté par le vouloir de la population. Je ne veux pas aller dans les infectives ou dire qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu élection. Il est président de la République. Il vient de signer un accord. Après avoir signé cet accord, il revient pour nous dire que l'accord ne sera, la paix ne reviendra pas simplement ou par la force diplomatique, ni par la force militaire. J'ai un député ici devant vous qui reconnaît que l'armée n'est pas forte. Et des deux, il dit, il compte sur le Wazalendo, qui du reste, ce ne sont que des civils qui n'ont aucune éducation militaire, ou dans un pays sérieux, on ne peut pas mettre notre espoir sur cela. Parce que nous avons des militaires, nous avons une armée, et on ne peut pas parler de Wazalendo, car la plupart sont des gens qui sont en train de se dérouter, ils commettent de bavures, ou ils sont mal encadrés, et ceci ne reflète à rien la République démocratique du Congo. Et parler de Wazalendo comme si c'était les gens à qui nous devons placer notre confiance, ce n'est pas le cas. Nous signons un accord que je pense que le président de la République lui-même, je sais qu'il nous suit, il n'a pas besoin de la paix maintenant à l'est de mon pays. Parce que le problème, il est là. Comment vous signez un accord où vous rentrez, vous avez même voulu qu'on puisse vous accueillir avec beaucoup de honneurs, avec des acclamations. Mais vous arrivez devant les élus où vous dites que cet accord n'apportera pas la paix et vous attaquez encore le Rwanda que vous avez signé l'accord. Qu'est-ce que nous voulons au juste?
Il n'a pas dit que l'accord n'apportera pas la paix, mais sur nos combats.
Non, c'est ce qu'il a dit. Non, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que la paix ne reviendra pas simplement par la diplomatie, ni par la puissance militaire. Or, cet accord est dit accord de paix. C'est-à-dire, une fois que l'on signe l'accord, le Rwanda doit retirer ses troupes. Déjà, je ne vais pas aller dans le fond pour dire que le Parlement n'a jamais été saisi pour étudier cette question. Le président de l'Assemblée nationale ne veut pas dire le Parlement. Mais le Parlement n'a pas été saisi, je ne pars même pas là-bas. Mais je pars dans le fond. Vous dites que c'est le Rwanda qui nous attaque. C'est le Rwanda qui nous agresse. Bon, acceptons cela. Mais aujourd'hui, vous signez avec le Rwanda, mais vous refusez le dialogue. Parce que le Rwanda dit n'est pas soutenir le M23. Madame Kelly, pourquoi la paix ne reviendra pas à travers cet accord? Parce que nous sommes allés à Washington comme des agresseurs et non comme des victimes. Nous sommes allés signer un accord avec le Rwanda, pas comme si le Rwanda nous attaquait, mais comme si le Rwanda se défendait. Parce que vous verrez dans cet accord, on parle de mesures défensives. Les mesures défensives sont le mécanisme mis en place par le Rwanda pour lutter contre les FDLR au niveau de ses frontières. Et nous, dans cet accord, l'on ne reconnaît pas que le Rwanda soutient le M23. Si le Rwanda soutenait le M23, on n'allait pas avoir le processus de Doha. Parce que le principal agresseur, c'est le Rwanda. Une fois que l'on signe avec le Rwanda, Doha devait disparaître. Mais pourquoi signer avec le Rwanda et laisser Doha? C'est-à-dire, nous avons deux fronts, deux chefs, deux armes auxquelles nous sommes en train de discuter avec eux. Ici, l'air n'est plus au populisme. L'air n'est plus...
Est-ce que c'est question de populisme ou de réalisme? Parce que le président lui-même, dans son discours, il a expliqué que 2025 a été une année très importante pour la diplomatie congolaise. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné officiellement l'agression du Rwanda contre la RDC. Il y a eu la signature de l'accord de paix à Washington qui prévoit le retrait de troupes rwandaises, le démantèlement des groupes armés. Il y a eu c'est aussi cet accord cadre conclu à Doha entre l'AFC M23 pour préparer un désarmement complet. Est-ce que ce n'est pas une victoire pour la RDC?
Non, ce n'est pas une victoire. Vous savez, notre pays est aujourd'hui humilié. Quand je dis c'est le populisme, c'est le populisme. Cet accord ne nous a rien donné. Cet accord a plutôt lavé le Rwanda. Cet accord a plutôt donné la force au Rwanda. Parce que quand vous lisez l'accord, vous allez remarquer que l'on parle de mesures défensives. Or, le Rwanda a toujours dit qu'il ne soutient pas le M23. Plutôt, il a activé les mesures défensives pour lutter contre le FDLR. Nous avons reconnu de pouvoir traquer les FDLR. Or, le Rwanda dit souvent que le FDLR s'est trouvé dans notre armée. Comment nous allons traquer ce qui se trouve dans notre armée? N'oubliez pas ici que lorsque Kabila Leper est entré ici avec le Rwandais, il y a eu ce qu'on appelle le massacre des Tingi Tingi, là où s'est trouvé principalement le FDLR. Il y a eu l'opération Pomme Vert, il y a eu la déclaration de l'ambassadeur rwandais ici dans une radio de la place qui affirmait que le FDLR ne s'est trouvé pas. Mais dites-moi, Madame Kelly, comment nous allons réussir à neutraliser les FDLR comme la première condition pour l'exécution de cet accord?
Non. Donc pour vous, la diplomatie congolaise n'a pas été à la hauteur.
De quelle diplomatie l'on parle? Quelle est la politique étrangère? Quelle est la politique que nous avons? On n'a aucune politique. Le problème, c'est que ceux qui sont des élus, ceux qui sont le représentant du peuple, devaient faire comprendre cet accord à la population. Personne ne connaît les clauses de cet accord. Vous allez voir là-bas dedans, quand vous lisez, vous verrez, il y a une clause où l'on dit, c'est interdit aux États de soutenir les groupes armés, dans les cas échéants. Sauf si il faut y faire recours pour faire respecter cet accord. Quand vous lisez en bas, vous verrez ceci, ça existe dans le département des États. Cela veut dire quoi? Le Rwanda ne soutient pas les FM23, mais le Rwanda peut faire recours pour faire respecter cet accord.
Alors, Nathanaël Nolokomba, pour vous, le discours du chef de l'État, c'est du déjà entendu, rien de nouveau, c'est ça qu'on
retient? Les présidents n'ont rien dit de concret, et les présidents se moquent de la population congolaise, surtout de son peuple. Nous ne sommes pas
sur le plan sécuritaire, économique, voilà, éducation, sociale, vous pensez qu'il n'a rien dit de nouveau?
Les présidents vous disent ici qu'il doit chercher les investisseurs pour les jeunes, tout ça. Pas plus tard que quelques semaines ici, il y a un monsieur qui s'appelle Docteur Farzam. Il est venu ici, il dit, moi je viens pour investir, donnez-moi des terres, ne me donnez rien, moi je vais investir parce que j'aime le Congo. J'aime le Congo avec mon entreprise, je vais investir. Vous savez ce qu'on a dit? Monsieur, il faut les 40%. Il a dit quoi à la jeunesse? La jeunesse, je vais vous donner les emplois. Et puis il revient, il dit, l'État ne donne pas de l'emploi. Nous ne sommes pas bébés, Madame Kelly. Ce pays, il y a des gens qui sont morts en 59. Il y a des gens qui sont morts en 2015. Il y a des gens qui tombent dans les champs de bataille. Parfois, lorsqu'on parle du Congo, on a l'impression que le Congo appartient à l'Union Sacrée, le Congo appartient au président Félix. Non! Dites-moi, les militaires qui meurent à l'Est, leur péché c'est quoi? Ils sont en train de défendre la patrie. Mais vous avez le président qui pense que tout peut être résolu par un bâton magique, une matraque magique. Vous partez signer un accord devant les républicains où nous savons l'origine de cette guerre, les démocrates sont derrière. Comment nous allons résoudre cette affaire? C'est-à-dire, parfois, quand je regarde, quand je suivis le président d'Arabie, j'étais en train de pleurer. J'ai dit, il ne mesure même pas le degré de la douleur que la population est en train de vivre. Dites-moi, il dit, il y aura la justice. De quelle justice parlerons-nous? Parce que le Rwanda n'est pas reconnu coupable. De quelle justice parlerons-nous? Donc, ici, nous ne sommes pas de bébés où maman veut aller dormir, vous vous faites croire à l'enfant qu'il faut jouer et à un moment, il va dormir. Non, le président n'a rien dit. Le président n'a rien dit de concret. Et la jeunesse extra-système est très énervée. Moi,
merci,
je le pense.
Merci à Nathanaël Onukumba, Achille Kapanga, vous êtes avocat, analyste indépendant, expert dans le domaine de la sécurité. Votre lecture du discours du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Aujourd'hui, il a abordé plusieurs aspects sécuritaires, économiques, sociaux. Alors, on va aller de façon, de manière générale. Comment vous avez trouvé ce discours? Est-ce que ça a rencontré les préoccupations de la population?
Bon, en fait, c'est une obligation constitutionnelle. Il faudra vous le reconnaître ainsi. Mais le chef de l'État ne devait que le faire. Je vais laisser les deux co-débatteurs, chacun parle de sa manière. C'est bon de parler. Mais souvent, quand on parle, il faut savoir que diriger, ce n'est pas facile. C'est comme si nous pouvions être ici à la radio Okapi. Quelqu'un qui est à l'extérieur croira que tout ici est en blanc. Mais quand vous allez arriver à la radio Okapi, c'est ça la réalité. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé que quand on parle des questions, il faut toujours avoir un peu de retenue dans le langage, puisque les réalités souvent sont tout autres. C'est une question nationale, oui. Le président de la République a déjà fait plusieurs discours, ce n'est pas le premier. Et les mots qu'il a pu prononcer ne sont pas non plus les premiers à prononcer, il les a toujours prononcés, même s'il a ajouté certains d'autres. Bon, mais moi, je peux me tenir à quelques mots. Le premier, c'est celui-ci. Si on peut parler de l'accord de Washington, déjà l'attitude des signataires, quand vous voyez les signataires, leur figure, leur manière de faire, ça montrait que c'était « je t'aime, moi n'oublie ». Donc, ne sont même pas serrés, ne sont même pas échangés de coups de main. Donc, vous sentiez qu'Abila, plutôt qu'à plutôt le président Kagame qui était dans ces états, les nôtres aussi, donc c'est comme s'ils étaient à faire une formalité. Mais pour nous, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de nous poser maintenant la question. Les accords qui ont été signés vont nous profiter à quoi? Et pour que ces accords nous profitent à quelque chose, comment nous devons nous comporter? C'est ça la question que nous devons nous poser. C'est déjà signé, même si nous parlons mille fois, des mille fois, nous critiquons, on ne va rien changer. Maintenant, posons-nous la question. Nous allons profiter quoi de ces accords? Le président a utilisé un mot dans son discours d'aujourd'hui. Il a parlé du levier. C'est un mot très important. La plupart des fois, quand le président parle, les gens toujours pensaient qu'il parlait pour lui-même. Non, non. Il s'adresse à la nation. Et la nation est composée des institutions, de tout et tout et tout. Il revient maintenant à chacun. Dans ce que le chef de l'État a dit, qu'est-ce que je dois faire? Parce que le chef de l'État ne peut pas aller à Bounagana combattre, je l'ai toujours répété. Il ne peut pas être ministre. Chacun est à son domaine, la décentralisation, les attributions. Si chacun faisait son travail, est-ce qu'on serait là où on est aujourd'hui? C'est bon d'attaquer toujours. Bon, il a parlé, mais il a parlé à qui? Il a responsabilisé qui? Qui doit faire quoi? C'est ça maintenant la question du levier. Le levier est là. Qui doit toucher le levier? C'est ça maintenant la grande question. Qui doit manier les leviers? Vous de l'agriculture, comment vous allez manier les leviers? Vous, le gouverneur de la ville de Kinshasa, les leviers que vous avez pour la ville, comment vous les gérez, comment vous les maniez? C'est ça la grande question dans ce pays. Malheureusement, les Congolais sont déjà bornés. Une question, on semble la coller à un individu. Non, non. Il y a quand même des ministères sectoriels. Chacun doit faire son travail. Alors, c'est là où je trouve que le chef de l'État doit savoir sanctionner. Malheureusement, c'est l'un des grands péchés de notre président. Les sanctions sont lourdes chez lui. S'il pouvait chaque fois assurer le suivi et sanctionner, ça changerait. Aujourd'hui, là, on parle des questions des villes et sa liberté, et ceci et ceci. Maintenant, si on dit Bumba ne fait rien, voyons comment changer Bumba. Non, il est protégé par celui-là, il est protégé par celui-là, et on va rester dans les statu quo. Moi, c'est ça le mal. Le président peut bien parler, mais le suivi et l'exécution. S'il n'y a pas de sanctions, vous voulez vous attendre à quoi? On vous a tout dit que les militaires ont toujours fait ceci sur le terrain. Les officiers ont toujours fait ceci sur le terrain. Mais vous verrez, certains officiers sont protégés. Les grands acteurs de mal sont protégés. Vous voulez qu'on parvienne à quoi? Voilà pourquoi ma recommandation est simple. Le chef de l'État, dans tout ce qu'il a dit, j'ai dit bien, il n'y a pas de nouveau, puisque c'est, tout a déjà été dit. Les projets qu'il a évoqués, et ceci et cela, tout ça on a suivi. Mais nous lui posons seulement une seule question. Les mots leviers sur lesquels il est revenu, qui tient les leviers et qui les manipule? Qui manie les leviers et comment manie les leviers? Parce que si le levier est mal manié, on vous dit nous voulons peut-être aller en avant, mais vous faites la marche arrière. Mais vous allez même faire bloquer le moteur. Et c'est là où nous sommes. Les leviers là dont il a parlé, c'est tenu par qui? Qui les manie? C'est ça ma grande question. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup. Ce pays, aussi longtemps que les punitions ou bien les sanctions auront des couleurs politiques, on ne réussira jamais. Parce que tu es de ma famille politique, je ne vais pas te sanctionner. Non. Ou bien tu n'as pas bien servi tel parti, on ne va pas te sanctionner. Non, non. Il faut que la loi soit là, au-delà, au-dessus de tout le monde. Et c'est ça qui fera réussir ce pays. Par rapport aux petites questions-là, d'ailleurs, madame, je voulais revenir un peu sur cette question-là. Je n'ai pas été content dans la salle. On n'est pas quand même dans un marché, on est dans un parlement. Comment on peut amener tout le monde à commencer à crier devant les chefs de l'État? Non, quand même. Tu dépêches d'avoir une petite discipline, mes chers amis. Là où les chefs de l'État ont de parler à la nation, les gens sont dans la salle, tantôt on empêche même les gens d'écouter ce que les chefs de l'État disent. Pourquoi tout ça? On n'est pas quand même dans la rue. C'est un discours à la nation. Respectons quand même les petites normes parlementaires ou protocolaires, où on peut quand même respecter. Cela déjà, quand les chefs de l'État, je les sentais un peu gênés par les acclamations. On n'est pas venu acclamer, non. On est venu écouter. Les acclamations, c'est dans nos meetings de quartier, de partis politiques. Et ici, les chefs de l'État parlent à la nation. Et il y a des invités, des marques qui sont là, les ambassadeurs et consorts. Pourquoi amener toute la foule qui viendra déranger les gens, commencer à créer comme si on était là? Ce n'est pas bon. Moi, je pense que là, je m'adresse aux dirigeants de l'Union Sacrée. Et c'est un peu de remettre un peu de discipline dans nos manières de faire les choses. Parce que nous avions des hôtes de marques là-bas. Et quand on va assister à de telles situations, ça ne nous honore pas.
Alors, Achille Kapanga, le président a présenté plusieurs résultats importants de l'année 2025 sur le plan sécuritaire. Il a parlé d'une meilleure organisation de l'armée et de la police, lutte contre les bandes criminelles dans les villes. Sur le plan économique, il a parlé de l'inflation très basse, de la croissance économique, voilà, du franc congolais qui s'est apprécié. Il a parlé des infrastructures, entretien de 8000 km des routes agricoles, l'avancement des grands projets tels que le port de Banana, les chemins de fer, les routes stratégiques. Qu'est-ce que vous en pensez?
Madame, moi je pense que nous devons savoir peut-être transformer les paroles en actes. C'est très important. Tout ce que le chef de l'État a dit, il y a ceci qui se fait, c'est ce qui se fera, c'est bon. Mais arriver sur terrain, madame, c'est là où nous sommes, arriver sur terrain. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que le peuple de l'Est, c'est un peuple exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'à dépit des affres de la guerre, vous pouvez arriver à l'Est, vous direz, mais ce sont ces gens qui sont dans des guerres, et ces gens qui sont en train de construire, ils ont un courage exceptionnel. Nous sommes ici à côté avec le Mobondo. Ça ne va pas passer une semaine tant qu'on ait attendu des morts. Mais tous ces cas-là, comment on gère ces cas-là? Bon, les questions de développement des routes et consorts, même à parler de la question de la ville de Kinshasa. Il a parlé, mais qu'on va commencer par la ville, avant d'étendre ça ailleurs. Moi, je pense que l'itinérance, c'est très important pour le chef de l'État. Mais il a des conseillers, malheureusement. Les conseillers du chef de l'État font quoi? Ils doivent respecter, être sur le terrain, voir si tout ce qui se dit est vrai. Parce qu'on ne peut pas quand même chaque fois venir tromper le chef de l'État avec des fausses images. Non, quand même. Le chef de l'État est entouré de conseillers. Pourquoi les conseillers ne peuvent pas voir réellement ce qui se passe sur le terrain? On a dit qu'on a fait 8000 kilomètres. Voyons ça concrètement et le peuple verra, c'est vrai. Mais quand on doit dire au chef de l'État de prononcer un discours, par exemple, que à Lualaba, on a fait ça et ça et ça et ça et ça. Mais quand vous arrivez à Lualaba, comment on est allé dire au chef de l'État de dire cette histoire alors que sur le terrain il y a autre chose? Évitons ça. Parce que quand le peuple découvre que ce qu'on dit et ce qui est sur le terrain ne coïncide pas, et c'est là où peut-être l'ami de l'opposition disait que non, bon, la jeunesse est extra.
que le système disait que non, bon, peut-être rien n'est fait. Non, non, moi je pense qu'il y a des efforts en cours. Par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, moi je pense qu'il faut quand même dire merci au chef de l'État. Il a réussi à mobiliser le monde entier pour qu'il soit témoin, pour qu'il soit témoin de la situation de notre pays. Et ce témoignage-là, c'est déjà un acquis pour nous. Nous devons maintenant nous organiser. Au cas où les Rwandais voulaient nous toucher, et si nous répliquons, on dirait que ces gens ont raison, puisque cette fois-ci, ils ont déjà signé un accord avec les Rwandais.
Merci.
Et comme les Rwandais, cette fois-ci, viennent les attaquer, ils ont le droit d'attaquer les Rwandais. Voilà pourquoi nous devons nous organiser et être forts, aller même au-delà du Rwanda. C'est très important.
Merci, Maître Achille Kapanga. On va ouvrir le standard pour écouter ces auditeurs qui sont en ligne, qui voudraient aussi s'exprimer. On va aller à Ubundu, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet auditeur.
Bonsoir Radio Okapi, moi c'est Ignace Ofumba depuis Ubundu dans la province de la Tchopo. Le discours du président de la République sur l'état de la nation cet après-midi est un discours borné de la fausseté du début jusqu'à la fin. J'ai incessamment compris que la voie précipitée pour obtenir les accords sans passer au dialogue intercongolais était sentimentale en croyant que ça allait tenir, or ce n'est que mettre la soupe sur le dos de la cuillère. Le président Tshisekedi a tenu un discours purement politique et qui ne tient pas compte de la réalité sur terrain et ça n'a aucun impact sur ce que les populations civiles attendaient. À mon avis, le président de la République lui-même a déjà compris que tous ces accords n'auront pas de solution et il a voulu nous masquer en disant des choses qui ne sont pas concrètes. Pour sortir dans ces fléaux, seul privilège est la voie des dialogues, sinon c'est de la peine perdue.
Alors, honorable Yannick Mambo, vous avez suivi cet auditeur d'Ubundu qui dit que tout ce que le chef de l'État a dit ne reflète pas la réalité sur le terrain.
Madame, je suis aussi écœuré d'écouter que les Congolais restent un peu pessimistes par rapport à certaines avancées. Ici, les accords sont les signes qui montrent à suffisance que la RDC est engagée aussi résolument dans un chemin de la paix durable. Pourquoi ? Parce que ici, le président de la République a été réceptif de ses homologues. On a passé du temps ici en Afrique jusqu'à aller chercher l'accord à l'extérieur. C'était juste pour montrer à la face du monde combien nous sommes disposés à trouver des solutions à nos problèmes. Mais cela ne nous laissera pas toujours dans l'élan où nous allons toujours chercher à parler sans mettre les jalons de nos moyens de défense interne ici. Ici, l'accord, les Congolais doivent comprendre que l'accord reste les écrits qui seront respectés par le parti et les dirigeants qui sont censés aussi donner l'élan des collaborations sur l'effectivité et l'aspect de ces textes. Au-delà de ça, ça ne nous empêche pas, ça ne nous interdit pas à l'interne de nous organiser, de préparer nos moyens de défense comme d'habitude. Nous sommes un État. Nous sommes appelés à se doter d'une armée forte, je l'ai dit ici. Le président a fait un appel avec un langage d'unité et de mobilisation à la nation. Cela ne doit pas cesser. Ça doit continuer. Même au-delà de ce que nous cherchons aujourd'hui, la paix doit être pérennisée. Et nous allons continuer dans cet élan de mobilisation sans faille, toujours vigilants. Nous n'allons pas laisser ces pays par rapport seulement aux situations qui nous traversent maintenant. Non, nous voulons une sécurité et une sécurité durable.
Alors, pour avoir une sécurité durable, on a besoin d'une armée forte.
Bien entendu, madame. Les chefs de l'État préparent déjà notre peuple à cela. Parce que nous n'avons pas connu ces succès de faire comprendre au monde que nous sommes agressés d'abord. C'était ça l'essence de cette diplomatie agissante. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire nous sommes agressés et le monde doit prendre conscience de cela. Et nous, nous allons nous défendre comme tout pays qui se défend pour son intégrité territoriale et pour la sécurité de ses populations.
On va prendre le deuxième auditeur qui nous appelle depuis Kolwezi dans la province du Lualaba.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Nous saluons les discours du chef de l'État sur l'état de la nation en ce moment où les pays traversent des turbulences liées à des enjeux sécuritaires et socio-économiques majeurs. Le président Félix a su dire la vérité au peuple congolais et dénoncer avec courage les agressions répétées contre notre pays. Il a réaffirmé la primauté de la souveraineté nationale et la défense et l'intégrité territoriale. Face aux attaques, il privilégie la voie diplomatique dans un esprit de responsabilité et de maturité politique. Les accords de Washington et de Doha ne remettent nullement en cause l'unité de la RDC. J'exprime un soutien total à cette vision de paix dans la fermeté. Le peuple congolais est appelé à l'unité et à la vigilance. Ensemble, nous resterons déterminés et préserver la paix, la dignité et l'avenir de la RDC.
Alors, on nous combat. Réaction, brève réaction.
Merci beaucoup, Madame Kelly. Ça fait mal au cœur lorsque l'on parle de notre pays et qu'il y a des personnes qui pensent que nous, nous sommes pessimistes, nous ne le sommes pas. Déjà, mon co-débatteur, celui de la société civile, a dit que le président a parlé sur les leviers. Mais écoutez, le président est élu sur base d'un projet politique. C'est lui le responsable devant la population. Nous ne sommes pas dans un régime adamique où lorsque... Adam mange le fruit, c'est des douanes pour dire que c'est Ève la femme que tu m'as donnée. Comment expliquez-vous le fait que vous reconnaissez que le président ne sanctionne pas et pourtant c'est lui qui nomme ses ministres? Vous reconnaissez que le président ne sanctionne pas et pourtant c'est lui qui fait les castings? Le président est responsable de tout et de tout. Parce que quand il vient chercher les mandats, il ne cherche pas les mandats au nom de ses ministres. Nous sommes en train d'avancer. Nous avançons, messieurs, madame Kelly. Alors, nous sommes dans un pays aujourd'hui où nous sommes comme dans un parti-État sur informel, parce que nous avons l'Union sacrée. Que font les élus? Combien de ministres ils ont convoqués à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a de bavures économiques? Combien de ministres ils ont sanctionnés parce que le pouvoir législatif a pour mission de veiller à l'exécutif? Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Mon co-débatteur ajoute une autre chose, il vous dit, nous avons vendu le pays. Mais nous allons vendre le pays plus que l'Ukraine. L'Ukraine a vendu son pays, le monde s'est mobilisé pour l'Ukraine. Est-ce qu'il y a la paix à l'Ukraine? Non, 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 non. Ce qui est...
Mais le monde s'est aussi mobilisé pour la RDC.
Et est-ce qu'il y a la paix à la RDC? Non, il n'y a pas la paix. Là, ce n'est pas parce que le monde s'est mobilisé qu'il y a la paix. Non, nos familles meurent à l'Est, les militaires tombent. Parce que nous, il y a des gens que nous avons donné le pouvoir et ces personnes ne savent pas que le pouvoir, c'est une responsabilité avant de privilèges. Donc, moi, je pense, pour être clair, les présidents de la République... Je l'ai vu aujourd'hui fatigué, sans initiative. Penser que la signature de l'accord de paix avec le Rwanda va changer les choses, non. Les pays, ce sont des monstres. Ils sont faits pour démontrer leur hégémonie. Ce n'est pas parce que nous avons signé un papier devant des caméras que cela va changer sur terrain. Investissons dans notre armée. Nous avons des jeunes qui acceptent de mourir pour la patrie. Nous avons des jeunes qui adhèrent à l'armée, Madame Kelly. À quoi ça sert qu'il y ait... ces dépassements budgétaires, qu'il y ait ces trains de vie des institutions, alors que mon armée, le militaire, aujourd'hui, n'ont plus cette morale-là de vivre, pour de se sacrifier pour le pays. Donc moi, je pense que dans tout ce que c'est dit dans ce plateau, les gens ont peur de responsabiliser le président de la République. Mais n'oublions pas, s'il est fatigué, c'est simple qu'il démissionne. S'il n'a pas d'initiative, qu'il démissionne, d'autant plus que le pays
n'est
pas...
Son mandat court jusqu'à 2028.
Non, je le reconnais. Le président a le mandat jusqu'à 2028. Ce n'est pas pour se faire du bien. C'est pour nous servir sur pied de l'article 5 de la Constitution. Et s'il lui pense qu'il n'a plus d'initiative, c'est simple qu'il puisse démissionner. Madame Kelly, mon co-débatteur à ma droite, à ma gauche, l'a dit ici, le pays est mobilisé, c'est une victoire. Mais vous devez savoir que le Rwanda est gagnant dans cet accord parce que le Rwanda n'est plus un criminel. Le Rwanda aujourd'hui est une victime. Lorsque vous écoutez, l'on parle de lever des mesures défensives. Ce n'est pas une agression. Nullement ici, je contredis tout le monde qu'il me prouve le contraire. Nullement la RDC a été reconnue comme un pays agressé. Nullement. Quand on dit qu'on a reconnu notre agression au monde, c'est où?
On n'a pas reconnu. L'accord n'a pas reconnu que nous sommes un pays agressé. L'accord a reconnu que nous sommes un pays dont la rébellion est en train d'avancer. Si nous étions un pays agressé, ça allait être coulé en écrit dans cet accord. Lorsque l'on reconnaît au Rwanda de lever ses mesures défensives et le Rwanda exige la neutralisation des FDLR avant le lever de ses mesures, c'est une victoire. Ce n'est pas une victoire. Parlons de la cogestion de nos parcs. Vous allez voir que nous sommes revenus à l'accord de 2019 entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Au début, c'était tu as des contacts, tu as le carnet d'adresse, moi je les minerai, on les fait ensemble. Aujourd'hui, c'est le même accord. Le cadre d'intégration régionale, ça parle de quoi? La cogestion de nos parcs, la cogestion de nos chaînes minérales de bout en bout. Ici, cet accord concerne que l'aspect économique. Mais sur terrain, ça n'existerait pas. Parce que posez-vous la question pour que je concluse. Si le Rwanda était responsable, pourquoi il y a Doha? Parce que le Rwanda allait directement se retirer. Mais le Rwanda signe un accord avec nous et nous pousse à aller négocier avec Doha. Ces pays n'appartiennent pas à l'Union sacrée. Les gens qui sont morts en 59, Madame Kelly, les gens qui ont été massacrés en 59, ils sont morts pour l'indépendance, pour la liberté. Et c'est les combats que nous continuons. Si le président Félix est fatigué, c'est un père que j'aime bien, il n'a qu'à démissionner et laisser les institutions évoluer.
Merci, Nathanaël, on nous combat, on va... Après Colosie, on va aller à Bukavu, Sud Kivu, pour écouter ces derniers auditeurs.
Jean Jado Igilima, je vous appelle à partir de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Accuser le président rwandais d'avoir violé l'accord au lendemain de sa signature, c'est prouver que la RDC n'avait que cet accord comme dernière carte à jouer. Et pourtant, si cette accusation s'avérait vraie, le chef de l'État était devant le Congrès et rien ne lui a empêché de déclarer la guerre contre le Rwanda et surtout qu'il a affirmé qu'il n'a pas renoncé à la souveraineté et à la sécurité du peuple congolais.
Maître Achille.
En tout cas, quand quelqu'un décide qui vous appelle, il faut sentir que dans lui, les sang qui est en train de couler des innocents, les déplacés de guerre qui sont éparpillés par-ci, par-là. Donc, les Congolais parlent avec une situation dramatique, un lourd fardeau qu'il a. Moi, je vais toujours répéter que les questions d'État, ce ne sont pas des questions faciles. On a parlé de l'Ukraine, on a parlé de ceci, de cela. Vous comprendrez que ce sont des questions qui sont complexes. Et je l'ai toujours répété, pour notre pays, il faut toujours considérer les trois dimensions, les dimensions internationales, régionales et sous-régionales, les dimensions internes ou bien nationales, locales. Si vous raisonnez en dehors de ces dimensions-là, il n'y aura rien. Donc, localement, à l'interne, soyons compacts, soyons soudés. Parler, oui, matin, midi, soir, on peut critiquer, on peut faire ceci, c'est bon. Mais entre-temps, on fait quoi? C'est ça la question que j'ai toujours posée à beaucoup de gens. Les gens toujours crier dans la rue, on peut faire, on va... C'est bon, c'est comme les joueurs. Quand tu es fanatique, tu es dehors, tu peux même. Tu risques même de gifler quelqu'un qui est assis à côté de toi. C'est ça, ce sont les réalités politiques. Nous qui avons eu la petite chance de gérer un moment, être maire de la ville ou bien avoir fait ceci ou cela, nous vous disons que les questions stratégiques et politiques avec les pesanteurs mondiales aujourd'hui, vous êtes en train de sentir le coup d'État qui se font sentir par-ci par-là. Ce sont des réalités politiques qui doivent échapper à personne. Moi, je pense que le chef de l'État. Il doit se sentir pour qu'il n'est pas seul. Il faut qu'il comprenne ça. Le peuple congolais est avec lui. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné le mandat. Il veut mettre au chef de l'État de se dire que non, le peuple doit donner le mandat. Comment je les traite? Comment je les remercie? Il faut que cette question lui revienne chaque fois. Et quand il parle, il a même fait réserver des minutes de silence à mémoire de tout le monde là qui est mort. Je l'ai suivi. Mais ça ne suffit pas. Je reviens sur une seule chose. Ce n'est pas Tshisekedi qui ira combattre là-bas. Si tu es commandant région militaire, tu as prêté serment, on te donne l'argent pour payer les militaires, pour la ration des militaires, que tu détournes ça en âme et conscience. Tu veux que c'est pas que vous puissiez dire que c'est ce qu'il dit. Mais chacun soit quand même responsable de ce qu'il fait. J'ai suivi la condamnation de certains hauts officiers.
Mais après, vous-même, vous avez parlé des sanctions lorsqu'il n'y a pas de sanctions.
C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Donc, je dis que quand quelqu'un a fait ça, ce qui s'est dit, si maintenant le pouvoir ne parvient pas à les sanctionner, ce serait une complicité et une faiblesse. Et c'est là où nous sommes toujours en difficulté. Nous devons quitter ça, madame. Parce que, vous savez, quand je vois le jeune sur le terrain qui se sacrifie,
Et des fois, ils disent, ils n'ont même pas à manger, ils n'ont même pas ceci. Mais quand vous arrivez, on voit les dépenses qui ont été effectuées par rapport à ces questions-là. Mais vous êtes surpris. Mais comment on a fait sortir autant, mais ce temps qui est arrivé sur le terrain? C'est parmi les causes de nos échecs.
Alors, voilà. En conclusion, maître
conclusion, je pense que ces accords sont déjà là. Ce n'est pas peut-être dans cette situation que nous allons changer ces accords-là. Mais je demande à chacun de se poser la question. Ces accords qui ont été signés, le peuple congolais va les faire exécuter comment pour que nous puissions quitter là où nous sommes aujourd'hui. Là, je responsabilise les élus. On a dit qu'on va amener cet accord au Parlement pour peut-être ratifier. Bon, vous allez approuver ça, je pense. Voilà. Voilà. Alors, nous attendons de vous, qui nous représentez, une attitude à prendre. C'est vous qui devez communiquer au peuple congolais par rapport à ces accords. Voilà comment nous devons nous comporter. Parce que le peuple a confiance à ces élus que vous êtes. Je vous fais porter ce message, puisque j'ai la chance d'être avec vous dans ce studio. Le peuple attend de vous une communication exacte. Puisqu'on ne doit pas rester dans une guerre dont on reconnaît l'éternel l'aboutissant. Les Congolais sont en train de mourir alors que le Rwanda est en train de se frotter les mains. Le Rwanda, c'est un petit pays qui ne nous fera pas du mal toute notre vie. Nous sommes un géant quand même. Ça fait la honte de voir comment le Rwanda nous fait marcher à quatre pieds. Nous ne faisons que crier toute cette république.
Merci.
Pour conclure, madame, j'avais demandé qu'on puisse mobiliser au moins 2 à 3 bataillons par province pour mettre fin à cette histoire. On a 26 provinces. Si on multiplie 26 fois, ce sera 52 bataillons bien équipés, tout. Qu'est-ce qui peut empêcher ces militaires de mettre fin à ces aventures? Mamadou et Kossor ont réussi à faire ça. Il y a quoi de mal? Nous souffrons, nous pleurons, madame, ça fait très mal.
Merci, maître Achille Kapanga, analyste indépendant et expert dans le domaine de la sécurité. Yannick Mambou, député national élu de Kenge Territoire dans la province du Congo, vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation. Votre mot de la fin.
Merci, madame. Je disais, le discours du chef de l'État était dans un cadre vraiment approprié aujourd'hui. C'était devant les élus, députés nationaux et sénateurs, et puis d'autres invités qui se sont associés à notre congrès. C'est solennel, cette activité. Le président de la République, tout en condamnant, tout en appelant à la mobilisation nationale, il ne croise pas les bras. Le pays est en train de se relever. Nous avons vraiment suffisamment besoin de ce relèvement d'un géant. Nous allons nous assumer comme tel, en reconnaissant tout ce que nous mine comme faiblesse pour donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a des bataillons de militaires qui sortent de formation aujourd'hui et qui vont au front. L'auditeur qui venait de parler tout de suite là du Sud-Kivu, on ne veut pas parler toujours de la guerre, faire des déclarations comme il le souhaite, mais le pays est en guerre. Nous sommes agressés, madame. Nous sommes en train de nous préparer à l'auteur de cette agression. Le pays travaille. Nous avons beaucoup de défis à relever dans ce pays. Et de cela s'ajoute cette agression. Nous ne pouvons pas rester bras croisés. Nous sommes en train de travailler. Le président ne pouvait pas étaler lors de ses discours nos stratégies militaires qui se préparent pour affronter cette agression. C'est normal. Le peuple congolais, nous sommes les élus, nous appelons à cette mobilisation générale de soutenir les actions du gouvernement, le président de la République, comme il est déjà debout dans tous les fronts, et nous pouvons que les soutenir.
Merci.
Donner le meilleur de nous-mêmes, à nous les élus, d'intensifier notre mission parlementaire de contrôle du gouvernement par rapport aux missions qui les attendent, doter ces gouvernements de moyens jusqu'à ce que nous aurons des résultats. C'est ça notre travail. Nous n'allons pas nous affaiblir.
Merci Yannick Mambou Nathanaël Olukomba, leader de la jeunesse extra-système. Votre conclusion, soyez concis s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Madame Kelly. L'on dit souvent que l'opposition ne propose pas. J'ai suivi le président où il est en train de s'étonner de la question de la ville. Je le regarde, je sais qu'il nous suit beaucoup. Je lui dis, président de la République, moi j'ai suivi dans une chaîne des investissements, un investisseur en train de plaire, dire qu'il n'est pas à mesure de vous voir, mais ce que lui veut, c'est construire les pays, construire les 26 provinces gratuitement. Il s'agit des docteurs Farzam. Moi je vous les parle. Il dit il a tout ce qu'il veut. Au lieu d'aller chercher les investisseurs ailleurs, avec Fitir 30 groupes, il veut construire les 26 provinces gratuitement. Il va s'y faire payer à concession de travaux publics. Donc ça, c'est mon message. On dit que l'opposition ne propose pas. J'ai lu pour eux, je suis venu leur dire. Et pour conclure, Madame Kelly, la couleur rouge de notre drapeau, c'est l'expression du sacrifice suprême de nos grands-pères en 59. Et aujourd'hui, si le président Félix est président, parce que les gens sont morts pour ça, ce n'est pas une faveur pour lui, c'est une responsabilité. Le président Félix, nous ne pouvons pas le placer comme quelqu'un qui ne connaît rien et il a la bonne volonté. Direct, nous ne sommes pas une église, nous sommes un État. Un État sanctionne, un État fonctionne. Le plus grand problème de notre pays, nous n'avons pas réussi à créer un État, une structure qui fonctionne. Nous n'avons pas une politique conçue pour le développement de notre pays. Donc, si nous voulons aujourd'hui résoudre la question de la guerre, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. On ne peut pas compter sur les éleveurs de moutons, sur les chasseurs de bœufs, à la place de notre armée. Je ne peux jamais imaginer prendre 2, 3, 4 jeunes qui n'ont aucune formation militaire et puis en conturer au nom de Ouazaline. Nous honorons les alliés Foreman, mais nous sommes incapables d'honorer nos militaires dignement qu'ils le sont. C'est quoi leur péché? C'est quoi leur péché?
Merci Nathanaël Onokomba, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Restez branchés sur Radio Okapi.